OK. Juste avant de prier, on va faire un rappel de ce qu'on a vu un peu la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? Quel attribut de Dieu on a vu? Malheureusement, il y a un problème avec l'enregistrement, donc celui-là ne sera pas sur Internet. Mais c'est des choses qui arrivent, c'est pas plus grave que ça. Est-ce qu'il y a du monde qui se souvient qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois comme attribut de Dieu? Qu'est-ce que tu as dit? Super. Si ça a éveillé, c'est bon, c'est correct. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. À part qu'il est grand puis t'es peurant. Partout puis il est peurant. C'est quoi le nom de la tribu en langage théologique? Est-ce qu'il y en a qui s'en souvient? Presque. T'étais pas là, toi, la semaine passée. OK, fait que tu guesses. Omniprésence, c'est ça, omniprésent. Est-ce qu'il y a du monde qui se souvient le préfixe omni, qui est un préfixe en latin? Est-ce qu'il y a du monde qui se souvient qu'est-ce que ça veut dire? Tout. Presque ça. Fait que donc, omniprésent, donc présent partout. Omnipuissant, c'est tout puissant. Puis quand on dit omniscient, c'est scient de science, connaissance, qui sait tout. C'est des termes théologiques pour, au lieu à chaque fois de dire « oui, Dieu sait tout », on dit qu'il est omniscient. C'est probablement plus long, mais c'est comme ça que les théologiens décident de le faire. Donc, est-ce qu'il y en a qui se souvient un peu, est-ce que c'est biblique de dire que Dieu est absolument partout? Est-ce que c'est biblique de dire ça? Super, OK. Est-ce que, comment la Bible présente, est-ce que si je m'en vais vraiment loin dans l'univers, j'ai une partie de Dieu, puis si je m'en vais dans les cieux ou sur la terre, j'ai une autre partie de Dieu? Ça, il est partout présent, c'est ça qu'on a vu. Dieu est pleinement partout. Il n'est pas juste qu'il est tellement immensément grand que tu ne peux pas sortir de sa présence. Ce n'est pas juste ça. C'est que partout, Dieu est pleinement présent. Donc, autant en ce moment-là avec nous, la pleine totalité de qui est Dieu, avec sa nature, son caractère est ici, autant qu'il est dans les cieux, et où qu'on avait vu qu'il est souvent un problème pour une pensée évangélique, c'est où aussi qu'il est présent. En enfer, okay, dans le feu éternel. Dieu est présent là. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu est présent de la même façon au paradis ou ici sur terre ou avec moi dans mes cultes personnels qu'avec des gens en enfer? Il n'y a personne encore dans ces jours. Il n'y a personne encore dans le feu éternel. Mais disons que dans le futur éternel, là, il y aura des gens dans le feu éternel. Si Dieu est présent là, c'est quoi la différence? Pourquoi la Bible parle d'abord de l'absence de Dieu à certaines places, qu'on se sent loin de Dieu, que nos péchés nous coupent de la présence de Dieu, que l'enfer, on a tendance à penser que c'est l'absence de Dieu, quoique ce ne l'est pas. Pourquoi ça? La Bible présente ça comme ça. Est-ce qu'il y a du monde qui s'en souvient?
C'est la manifestation de Dieu qui est différente.
Exactement. C'est que Dieu est toujours présent, mais il manifeste différemment sa présence. Dieu, avec ses enfants chrétiens comme nous, manifeste toujours sa présence dans la grâce et la bonté. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous reprend pas, mais c'est toujours par grâce et bonté. Puis dans les cieux, c'est la pleine présence, la pleine manifestation de sa beauté, de sa gloire, de sa grandeur, de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour. Tandis qu'en enfer, ce n'est pas l'absence de Dieu, mais c'est l'absence de manifestation de grâce, d'amour, de beauté. En fait, c'est la pleine présence du jugement, de la justice, de la sainteté de Dieu. Donc, c'est ce qui rend aussi l'enfer aussi terrifiant. Des implications du fait que Dieu est partout présent. Mais aussi, on avait vu qu'il y a des côtés positifs. Par exemple, est-ce qu'il y a des lieux plus précis qu'on doit obliger d'aller pour trouver la pleine manifestation de la présence de Dieu pour nous faire du bien? Non, il n'y en a aucun. Autant si tu vas sur le haut d'une montagne, toi, tu peux te sentir mieux là, mais Dieu ne sera pas plus présent là, autant que dans une chambre, autant que nos frères et sœurs qui sont en prison. Les autres, ce n'est pas à cause qu'ils sont en prison que Dieu n'est pas pleinement là. En fait, souvent, Dieu va manifester encore plus sa bonté et sa grâce à ses enfants qui ont la foi, qui sont en prison. C'est ce qui fait. C'est pour ça que c'est une aussi belle doctrine pour nous qui est en Christ, parce que nous, on n'a pas... Oui, on a une certaine crainte de la présence de Dieu parce qu'on voit qu'il voit tout dans notre cœur, qu'il voit tout dans nos péchés puis nos pensées, puis qu'on ne peut jamais s'en aller de lui. Fait qu'on a la crainte, mais on n'est pas terrorisé comme les pécheurs non justifiés ou non pardonnés devraient être terrorisés. Nous, on sait que peu importe partout où Dieu nous voit, on est en Christ. On est dans l'amour du Christ. On est dans l'amour de Dieu. Eux autres, non. Eux, c'est terrifiant parce que partout où ils sont, partout ce qu'ils font, Dieu est là et prend des notes, en quelque sorte, et prend en compte tous leurs péchés, leur iniquité. Donc, c'est ça. Ça, c'est la, 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 l'omniprésence de Dieu. Aujourd'hui, ben on va prier puis on va commencer pour aujourd'hui. Encore une fois, on s'humilie devant toi parce qu'on est indigne, Seigneur, comme Jacob disait. Comme Jacob, lorsqu'il te priait, lorsqu'il avait peur, qu'il était indigne de tout le bien que tu nous fais. Seigneur, nous sommes indignes, mais nous y croyons et nous en sommes sûrs. En fait, Seigneur, rien ne peut nous convaincre du contraire de ta bonté pour nous, parce que tu l'as ultimement prouvé en donnant ton Fils bien-aimé, ton précieux Fils unique que tu aimes, dans lequel tout ton amour demeure, puis que lui, tu l'as donné, Seigneur, pour nous. Comment douter de ton amour, Seigneur? Merci de ta présence dans nos vies. Merci de ta présence ce soir, Seigneur. Veux-tu te manifester dans ta grâce et dans ta beauté et dans ta grandeur dis ce soir, Seigneur, pour nous apprendre encore quelque chose sur toi et de changer nos vies et nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, là, vous voyez à la page 173 en haut qu'il y a un titre 4 qui était supposé d'être un autre attribut incommunicable qu'on voyait, qui était l'unité ou la simplicité de Dieu. Sauf que j'avais prévu d'en discuter plus en détail, mais on l'avait déjà vu à la page 129-130, je l'avais mentionné un peu, puis moi je me souviens que à force des cours et des semaines qui ont passé, puisque ça fait déjà plusieurs mois qu'on avait parlé de ça, je l'ai toujours rémentionné. Fait que je voulais pas passer un cours complet à répéter ce qu'on avait déjà vu, mais je l'ai mis là quand même pour qu'on sache que, ah oui, quand on regarde nos notes, la simplicité de Dieu, oui, c'est un attribut incommunicable. Okay? Fait que si vous voulez aller voir, en fait, même on pourrait faire un exercice. Y a-t-il quelqu'un qui se souvient un peu qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'unité ou de la simplicité de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui s'en souvient? Je m'attends pas à une réponse, mais quand même, y a-t-il quelqu'un qui s'en souvient? Vous étiez pas là, vous autres? Non? Hein? Ah, c'est ça. Essentiellement, c'est ça. C'est que Dieu n'est pas fait comme nous, on est simple, pas dans le sens que de nier là. C'est simple dans le sens pas complet. C'est le contraire de il complexe ou fait de partie, compartimenté. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'unité, ça mélange moins. C'est exactement, c'est ça qu'on avait vu. On avait vu que Dieu n'est pas fait de partie. Dieu est toujours pleinement, entièrement qui qu'il est. Il n'y a pas Dieu, il y a une partie de lui qui est justice, puis une partie de lui qui est amour. Puis des fois, c'est son amour qui veut prendre la place, mais c'est sa justice qui arrive, ou des fois, il pile sur sa justice pour pouvoir faire amour. C'est pas comme ça. La Bible, comme on avait vu dans certains passages, parle de Dieu. Dieu est amour. Ça veut dire quoi, ça? Que Dieu, dans son entièreté, est toujours amour. Ailleurs, va dire Dieu est justice. Il n'est pas des fois justice. Il n'est pas une partie de lui qui est justice. Dans son entièreté, Dieu est toujours juste. Puis nous, on n'a pas le choix de le voir un peu compartimenté puis de séparer ses attributs qu'on avait dit. Mais c'est juste parce qu'on est limité puis qu'on ne peut pas complètement comprendre. Mais en fait, on peut dire que l'amour de Dieu est juste puis on peut dire que la justice de Dieu est aimante. Ou pleine d'amour. On peut dire que la bonté de Dieu est sainte. Puis, tu sais, vous voyez, les attributs de Dieu définissent tout ce qu'il est. Mais ça, on retient que Dieu est toujours pleinement tout ce que Dieu est, puis qu'il n'est pas fait de partie, on sait c'est quoi l'unité de Dieu, grosso modo. Fait que c'est ça pour ça aujourd'hui. On va aller dans le point 5, qui est un... OK, fait que là, aujourd'hui, on finit... Ben pas aujourd'hui, pendant les... c'est le dernier attribut incommunicable qu'on va voir. En fait, c'est pas vraiment un attribut, mais je l'ai classé dans les attributs incommunicables, vous allez comprendre pourquoi. Au numéro 5, aujourd'hui, puis dans les prochains théologies systématiques, on va parler des noms de Dieu. Donc, le mot qui va là, c'est les noms de Dieu. N-O-M-S, là, les noms de Dieu. Pourquoi je l'ai parlé dans les attributs incommunicables? Ben, c'est parce que on parle des noms de Dieu. Nous, on ne porte pas le nom de Dieu. On ne s'appelle pas Yahweh ou... Non, c'est ça. Fait que, on va voir les noms de Dieu, puis on va finir le chapitre des attributs incommunicables avec ça. Est-ce que tout le monde a écrit les noms de Dieu? All right. Dans la culture hébraïque et dans la Bible, le nom n'est pas seulement un titre. C'est comme moi, Vincent, ça signifie rien à part que c'est mon titre pour me nommer, pour savoir je suis qui. C'est une expression dans la Bible ou pour la culture hébraïque. C'est une expression, une révélation de la personne et ou de son caractère. Eux, les noms, beaucoup plus grandes dans la plupart des cas, c'est pas toujours, mais souvent le nom d'une personne, ça a une bien plus grande signification que juste vouloir nommer la personne. Par exemple, on va voir quelques exemples. Vous les avez tous rencontrés, j'imagine, ces exemples-là. Dieu a changé le nom d'Abraham, qui était son nom que son père lui avait donné, puis Dieu l'a changé par celui d'Abraham. On lit dans Genèse 17:5, c'est Dieu qui parle. « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, puis il donne la raison, car je te rends père d'une multitude de nations. » Abraham signifie littéralement « père d'une multitude ». Je pense que Abraham, ça veut dire « père élevé » ou « père honoré » ou quelque chose comme ça. Puis Abraham veut dire « père d'une multitude ». C'est pour ça que Dieu, il lui a donné ce nom-là, parce que Dieu lui avait promis qu'il allait faire une multitude de lui. En fait, que même que sa descendance, on n'allait pas pouvoir la compter, puis que dans sa descendance, toutes les nations de la terre allaient être bénies. Donc Dieu, pour comme dire... quasiment pour affirmer sa promesse, en fait, pour que même le nom d'Abraham soit un témoignage de la promesse de Dieu, il a décidé de l'appeler Abraham, lui donner un nouveau nom. Vous voyez, c'est plus que juste... Lui, Abraham avait... Quand lui se souvenait de son nom, les gens l'appelaient Abraham, ça portait une grande, grande signification, plus que juste son titre. De la même façon, il est significatif que Dieu ait choisi que son Fils incarné porterait le nom de Jésus. En Matthieu 1:20, on lit ça. On lit la raison pourquoi. Quelqu'un veut le lire? Le rouge au milieu.
Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Oui. Jésus, ça vient d'un... nom hébreu qui vient d'un mot hébreu qui veut dire sauver, délivrer. Puis est-ce qu'il existe vraiment un nom plus approprié pour celui qui est venu nous sauver puis nous délivrer de nos péchés? Jésus, puis c'est, tu vois que c'est Dieu par l'ange qui lui a dit, tu vas l'appeler comme ça. Vous voyez, Jésus, c'était pas juste, ah, lui il s'appelle Jésus, c'est non, ça veut dire sauveur, ça veut dire lui qui va délivrer. Puis Dieu a voulu que ce soit ce nom-là pour le Fils incarné. Un nom ou un surnom pouvait aussi pas être juste quelque chose qui allait être fait. Tu sais, Abraham, c'est une promesse, Jésus, en quelque sorte, ça décrit ce qu'il va faire, son nom, mais ça pouvait aussi parler du caractère d'une personne. Par exemple, Abigaël, avant qu'elle soit la femme de David, elle avait un mari qui s'appelait Nabal, puis on lit ça, elle-même a dit à David de son mari, « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. » Puis, évidemment, Nabal, vous avez deviné, ça veut dire fou, ça veut dire folie. Puis, il est en train de dire, ben, il est drette comme son nom. À cette heure, l'histoire ne nous dit pas si... on l'adressait comme Nabal parce qu'il vivait comme de la folie, ou ça ne dit pas que peut-être ses parents lui ont donné ce nom-là, peu importe. Mais il portait le nom de Nabal. Puis, tu vois qu'Abigaël, elle lit ça à son nom. Fait que ça parlait de son caractère un peu. De la même manière, mais plus positive, parce que là, Nabal, c'est un peu négatif puis triste, mais de la manière plus positive, Luc, il n'y a pas de « il » là, mais Luc mentionne un chrétien comme ça dans le livre des Actes. Joseph, surnommé un autre nom, par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». Donc lui, son nom de naissance, c'est Joseph. Mais il semble qu'à cause qu'il y avait une habitude à encourager, sûrement, ou à exhorter, puis que c'est une facette de son caractère qui faisait du bien aux frères et aux sœurs, les apôtres eux-mêmes vont l'appeler, ils savent que son nom c'est Joseph, mais ils vont l'appeler entre eux Barnabas, fils d'exhortation. Parce que c'est une facette de son caractère. On pourrait encore nommer plusieurs exemples. Jacob, le nom fut changé par celui d'Israël, quand il a lutté avec Dieu. Celui de Saraï par Sarah. Mais l'idée est claire avec les noms, c'est que souvent, le nom d'une personne est beaucoup plus significatif qu'une simple désignation. Beaucoup plus significatif. Puis encore aujourd'hui, dans ces cultures-là, ça a une plus grande signification que nous ici. De manière similaire, les noms de Dieu, puis on est à la page 174, les noms de Dieu dans les Écritures sont inséparables de sa personne. Et sont des descriptions et des révélations de qui qu'il est. C'est pas juste un titre, c'est pas juste une désignation. Dieu va se présenter de plusieurs manières différentes, avec des noms différents, puis chacun des noms de Dieu exprime certaines vérités de son caractère, ou de ses actions, de ses œuvres, ou d'une facette de sa relation avec nous. Souvent, ça va, c'est ça, mais c'est bien plus que juste une désignation. Par conséquent, lorsque nous prions que ton nom soit sanctifié en Matthieu 6-9, on prie que Dieu soit honoré d'une manière qui reflète réellement son caractère et sa personne. C'est pas juste comme que la désignation, l'Éternel soit honoré, puis que le monde ne prenne pas juste ce nom en vain, mais que non, que l'entièreté de qui est Dieu, ou que nos paroles, ou que les agissements, ou que la terre, ou que peu importe qui et quoi, reflète vraiment qui est l'Éternel. C'est ça qu'on veut dire par que ton nom soit sanctifié. Honorer ou sanctifier le nom de Dieu revient à honorer ou sanctifier Dieu lui-même. De manière négative, le commandement « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain » nous interdit non seulement d'utiliser le titre « Dieu » ou « Éternel » d'une manière commune ou profane, ça veut dire comme « OMG » ou tous ces mots-là. Oui, ça rentre là-dedans, mais nous interdit essentiellement de tenir des propos ou d'avoir certains comportements qui ne reflètent pas le caractère ni la beauté de Dieu lui-même et qu'ainsi ça ternit sa réputation. Vous voyez, le commandement de ne pas prendre son nom en vain, là, oui, ça veut dire de ne pas faire des serments en prenant le nom d'Éternel quand on sait qu'on ment et des choses comme ça. Oui, ça veut dire de ne pas dire « Oh mon Dieu » de façon commune au point que « Oh Dieu, c'est juste une virgule dans nos phrases. » Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est parce que quand on fait ça, c'est pas juste le fait de prendre son nom qui est mauvais, c'est le fait qu'on le rend commun, on le rend ordinaire. C'est comme si, parce que vu que le nom est associé à Dieu, à force de prendre son nom de façon aussi commune, sans une espèce de révérence et de respect et de crainte, bien c'est Dieu qu'on rend plus commun. C'est lui qu'on prend de façon plus mondaine à force. C'est pour ça, en fait, que c'est rendu de même. De nos jours, avant, les gens avaient un bien plus grand respect pour le nom de Dieu, mais à force des temps, ils l'ont perdu. Puis aujourd'hui, si tu n'as pas une bonne émission, puis tu ne fais pas des codes d'écoute, si tu ne dis pas au moins ça. Dans chaque film, même pour les enfants, ils disent. L'autre fois, j'ai arrêté un film d'enfant parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire les enfants dans le film d'enfant mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, puis tout ça. T'sais. Fait que c'est ça. Le nom de Dieu est associé à Dieu lui-même. C'est à ça. OK. De connaître vraiment Dieu implique donc de connaître les noms. Habituellement, quand on veut connaître quelqu'un, on veut connaître son nom. Surtout si son nom nous apprend quelque chose sur la personne qu'on cherche à connaître. Donc, de connaître vraiment Dieu implique donc de connaître les noms par lesquels il se révèle à nous. Or, la Bible donne de nombreux noms à Dieu, chacun d'eux reflétant un aspect particulier de son caractère. Puis là, on va voir des noms propres de Dieu, on va voir des noms composés de Dieu, des vrais noms comme Yahweh, c'est vraiment un nom personnel propre à Dieu, un peu comme moi, on m'appelle Vincent. Mais on va voir aussi que ce point-là, des noms de Dieu, ça va beaucoup plus loin. Oui, c'est tous les noms comme Adonai, Elohim, Yahweh, Jireh. Mais on va voir aussi que des fois, Dieu se désigne comme notre bouclier. Ou des choses comme ça, qui ne sont pas comme un nom propre, mais c'est Dieu se présente de cette façon-là dans un but précis à nous, puis on va les inclure dans les noms de Dieu. Toutes les livres de théologie les incluent, que ce soit « Mon bouclier » ou « Je suis votre rocher », puis on va les inclure là-dedans parce que c'est des titres que Dieu se donne pour communiquer quelque chose de lui-même par rapport à son peuple. Donc, oui, c'est ça, on va voir que Dieu, c'est à cause que, comme on a déjà vu, si Dieu ne nous parlerait pas en langage humain, qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne de lui? Un Dieu invisible, éternel, en dehors du temps, qui est partout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne de lui? Mais Dieu, il fait des anthropomorphismes qu'on appelle en théologie, c'est-à-dire qu'il prend un langage humain ou des formes humaines comme sa main ou pour nous aider à capter quelque chose de lui. Fait que c'est ça que nous, on veut faire en étudiant les noms de Dieu ou les titres qu'il se donne ou avec quoi qu'il se présente. On veut, dans le fond, on veut étudier ça pour voir qu'est-ce que ça dit sur Dieu. Tu sais, quand Dieu se présente comme un aigle ou comme un oiseau qui prend ses enfants, c'est ça, une poule ou un aigle. Mais il se verrait qu'il se présente comme une poule aussi. Oh, Dieu n'est pas une poule, mais ça nous présente quelque chose de sa tendresse, réconfortant à propos de ses enfants. Puis c'est ça qu'il faut aller chercher quand on étudie les noms de Dieu. Je vais vous lire la note qui est là. Puis ça, c'est bien personnel à moi, parce que pour moi, c'est un sujet que j'ai qui change beaucoup quelque chose dans ma vie, les noms de Dieu. Puis vous allez en voir un peu pourquoi là-dedans. Apprendre et chérir dans nos cœurs les divers noms que Dieu s'attribue est une véritable bénédiction pour notre communion avec Dieu. Dieu se désignant parfois d'une manière particulière pour une situation particulière, pourquoi ne pas enrichir votre vie de prière, je voulais dire notre vie, moi je ne sais pas pourquoi j'ai dit votre, mais notre vie de prière, en s'adressant à lui par ce nom particulier, au lieu de toujours utiliser la même désignation. Par exemple, lorsqu'on se sent dérouté, ayant besoin d'être dirigé, pourquoi ne pas s'adresser à Dieu de manière plus précise comme étant « L'Éternel, mon berger », qui est un nom composé de Dieu, « Yahweh Ra. » Nous adressons plus loin tous les noms composés que Dieu possède dans les Écritures, mais soyons très attentifs afin de trouver dans les noms de Dieu une grande source de joie et d'assurance dans notre marche avec lui. Vous savez, nous, on a tendance, puis je suis dans le même bateau que vous autres, oui, on appelle Dieu notre Seigneur. Puis ça dénote une des facettes que Dieu est pour nous. Il est notre chef, il est notre roi, il est lui qui dicte notre conduite, et c'est lui qui nous amène. Mais Dieu se présente de d'autres façons à nous. Fait que tu sais, des fois, nous, on utilise juste Seigneur, 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 mais la Bible montre Dieu sous plusieurs d'autres noms. C'est Dieu lui-même. Puis des fois, tu sais, justement, tu te sens défaite. Tantôt, on va arriver à quelque chose. Tu sens que tu as péché. Tu te bats contre le péché. Mais Dieu donne des noms pour nous aider là-dedans. Puis des fois, d'approcher Dieu avec cette facette-là. Ou tu sais, moi, souvent dans la prière, Seigneur, l'Éternel, mon rocher. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai besoin de quoi de solide parce que mon âme se sent un peu. Fait qu'on approche Dieu par ces désignations-là qui nous montrent une facette particulière qu'on a de besoin dans notre situation. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est tellement important de connaître les noms de Dieu puis les approcher, je veux dire, de les chérir dans nos cœurs pour ces situations-là particulières dans lesquelles on vit. All right. Donc, 5-1, on va commencer avec le nom... en fait, qui est le plus utilisé dans la Bible de Dieu pour désigner Dieu, c'est Yahweh ou Yahvé ou Yahweh ou en tout cas, on n'est pas trop sûr comment ça se prononce, mais c'est soit Yahweh ou Yahweh, que souvent qu'en français ou en anglais on va prononcer. Moi, je vais dire Yahweh. Yahweh, le nom personnel de Dieu, est le plus utilisé dans les Écritures, exactement 6825 fois. Ça, c'est Yahweh. En hébreu, ce nom-là est écrit en forme de tétragramme, c'est-à-dire un mot avec quatre lettres, composé par quatre consonnes hébraïques qui ont été translittérées en français. Translittéré, ce n'est pas une traduction, mais c'est comme l'équivalent en français d'une lettre ou d'un mot dans une langue étrangère. Fait que, tu sais, mettons que... c'est ça, mais vous allez vous comprendre. En français, ça donne... Le mot hébreu, c'est quatre consonnes. Nous, en français, on l'écrit comme ça. YHWH. Ça, c'est le tétragramme. Dans la Bible, quand Dieu se présente comme Yahweh, c'est comme ça qu'il se présenterait. Les quatre lettres hébraïques sont Yod, He, Wa, He. Vous comprenez de où que ça ressemble, pourquoi on dit Yahweh? Les lettres, c'est ça, Yod, He, Wa, He. Ça, c'est pour ça qu'on pense que ça se prononce peut-être Yahweh. Même si on ne savait pas avec certitude comment ça se prononce, on dit soit Yahweh ou Yahweh ou Yahweh. C'est par, en fait, vous savez, peut-être, je vais le dire tout de suite, je n'ai pas pris dans mes notes, mais ça me pop. En anglais, il y en a plusieurs qui traduisent Jéhovah. Dans les Bibles protestantes, là, je ne parle pas des témoins de Jéhovah. Là. Puis, je voulais expliquer pourquoi, grosso modo, je ne veux pas vous mélanger avec ça. Mais la grosse raison pourquoi que Jéhovah, en fait, c'est que le tétragramme, ça, là, les Juifs, au fil des temps, on avait tellement une crainte et un respect pour le nom de Dieu qu'ils ne le prononçaient pas. Fait que même s'ils lisaient, ils ne le prononçaient pas. À la place, ils allaient dire Adonai. Ou, en fait, j'ai mis une note là pour ça. Anyway, ils disaient soit Adonai, qui veut dire Seigneur, ou ils disaient Elohim, qui veut dire Dieu. Puis ça, c'est que même, ils ne lisaient pas. Ils étaient là, mais ils allaient dire Adonai à la place. Puis, il y a eu des vu que c'est une tradition parmi les Juifs, surtout après l'exil, quand ils sont venus l'exil de Babylone, dans les traductions grecques de l'Ancien Testament, les traducteurs ils ont suivi cette tradition-là des Juifs, puis à chaque fois que c'est écrit Yahweh, à la place, ils écrivaient Adonai, qui veut dire Seigneur. Les auteurs du Nouveau Testament utilisent la version grecque, puis eux autres aussi, donc ils disent à chaque fois que c'est Yahweh, ils vont dire Seigneur. C'est pour ça que Jacques, par exemple, va dire dans son épître le Seigneur des armées. Mais en fait, dans l'hébreu original, c'est écrit Yahweh, ou l'Éternel des armées. Puis, en fait, ceux qui étaient, avant Jésus-Christ, ceux qui étaient considérés comme ceux qui mémorisaient la tradition orale de l'Ancien Testament, à un moment donné, pour respecter ça, ils écrivaient le tétragramme, mais en dessous, ils écrivaient les voyelles de Adonai, juste pour que se souviennent que quand les gens lisent, ils ne lisent pas Yahweh, mais ils disent Adonai. Puis quand ça a été traduit dans une autre langue, les gens ont pris le tétragramme Yahweh Puis ils ont inséré les voyelles Adonai, ce qui donne Jéhovah ou Jéhovah. D'où après ça, c'est devenu Jéhovah. Donc, c'est juste un mélange entre Yahweh puis Adonai. Puis il y a du monde qui l'ont juste gardé pour dire ça. Fait que c'est ça. C'est un mix de noms qui donne Jéhovah. Je l'ai expliqué vraiment pas en détail, là, mais grosso modo, c'est ça. C'est des noms qui se sont mélangés au fil des temps. C'est par ce nom, en parlant de Yahweh, que Dieu se révèle à Moïse lorsque celui-ci lui demande qui l'envoie. Hein? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Yahweh, je suis, m'a envoyé vers vous. » Au verset 15, Dieu précise ceci, « Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération, en parlant de Yahweh. » Donc ça, je viens de... En bas, j'ai lu le début de la note, je vais juste dire en bas. La plupart des traductions anglaises modernes ont respecté la tradition de ne pas vouloir mettre Yahweh, mais mettre Seigneur à la place. Puis au lieu de prononcer ou d'écrire le tétragramme en traduisant Yahweh, ils vont mettre Lord, qui veut dire Seigneur. Puis en lettre capitale, juste pour qu'on fasse la différence entre Lord quand ça dit Yahweh, puis Lord quand c'est Adonai. Puis nous, en français, souvent, on a écrit l'éternel au lieu d'écrire le tétragramme, parce que si vous auriez YHWH, il y a du monde qui l'écrit, mais nous, on écrit, la plupart des versions secondes vont dire l'éternel, puis d'autres vont dire Seigneur en lettres majuscules aussi. Pour quand que vous, quand je pense que la seconde 21 fait ça, ou qu'à chaque fois que c'est écrit Yahweh, ils vont écrire Seigneur en lettres majuscules, pour que les gens sachent qu'en arrière de ce mot-là, c'est Yahweh. La signification de Yahweh est profonde. Puisque ce nom dérive du verbe hébreu qui veut dire être, hein, Dieu dit je suis, son sens fondamental est que Dieu est tout simplement. Comme nous l'avons déjà adressé plusieurs fois dans notre étude, ce nom-là évoque donc l'éternité de Dieu, l'immuabilité de Dieu, l'indépendance de Dieu. Dieu va exister et existera toujours que par lui-même. Il est l'ultime réalité. Il est important de reconnaître que le Seigneur Jésus lui-même se désigne comme étant celui qui est. Ou, il va dire avant Abraham, je suis. Lui, c'est en grec que c'est écrit dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, mais c'est exactement les mêmes mots que dans l'Ancien Testament grec, Dieu va se présenter à Moïse. Je suis, Jésus dit, avant Abraham, je suis. Donc par là, il affirme aussi sa divinité, qu'il est l'éternel. Donc ça, c'est pour Yahweh, mais selon le connaît souvent, ce qu'on connaît moins, c'est les noms composés de Dieu. Que la Bible va prendre le nom Yahweh, puis il va rajouter un titre à côté pour faire comme un nom composé, comme Jean-Baptiste, par exemple. En fait, il ne s'appelait pas Jean-Baptiste, c'est nous qui l'appelons de même, mais plus Jean-Théodore, on va dire. À chaque fois qu'on voit un de ces noms-là, ça nous donne vraiment une facette vraiment extraordinaire sur Dieu. Puis le premier qu'on voit, c'est Yahweh Sabaoth, qui veut dire l'éternel. Y a-t-il quelqu'un qui le sait? L'éternel des armées. L'éternel des armées. Est-ce que quelqu'un pourrait lire les trois versets qui sont là?
Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, saint à l'éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. » Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Qui donc est ce roi, l'éternel des armées, voilà le roi de gloire.
Oui, nous, il faut. C'est vrai, la Bible le présente vraiment comme un nom. Nous, on pourrait être tenté de voir l'éternel qui est le chef de ses armées, puis juste le voir comme une phrase, mais en hébreu, c'est vraiment un nom composé. Il présente Yahweh Sabaoth, c'est pour être pris ensemble, puis Dieu se présente comme ça. Voici mon nom, voici mon titre. Ce nom présente Dieu en tant que roi, selon les versets qu'on a vus, puis plein d'autres, que roi et guerrier qui dirige et protège son peuple. C'est comme ça, quand Dieu se présente comme l'éternel des armées, il se présente comme le guerrier, le roi qui dirige et protège son peuple. Le mot armée, en fait ça prend deux E, mais le mot armée peut faire référence à plusieurs choses. Dans l'Ancien Testament, souvent ça fait référence à trois choses. Soit le peuple d'Israël, Dieu va souvent dire que c'est ses armées, ou les êtres angéliques, on va voir ailleurs partout dans la Bible que Dieu en parle comme ses armées, ou des fois aussi la Bible parle du cosmos, c'est-à-dire le soleil, les étoiles, puis tout ce qui se rend dans l'univers, des fois ça va être parlé comme les armées de Dieu. Je pense que c'est les trois, en fait. Je pense que ça englobe tout ça quand Dieu se présente, mais ça c'est mon idée à moi. Grosso modo, l'idée communiquée est que le Seigneur règne, sur toute créature et sur toute chose, autant les terrestres, cosmiques ou les célestes. Il accomplit sa parfaite volonté et personne ne peut s'opposer à lui. Comment utiliser ce nom-là? Souvent, tu vas voir David et les autres utiliser ce nom-là de Dieu, justement quand ils ont affaire avec des ennemis, quand ils ont affaire à être protégés de quelqu'un, de la persécution, ils vont se dire « Yahweh Sabaoth ». Puis ils vont l'appeler comme ça. T'es celui, t'es le guerrier, t'es celui qui se bat pour nous. Tu t'es présenté comme notre roi. C'est toi qui règnes. Viens défendre ton peuple. C'est l'Éternel des armées. Il se présente comme ça. Et on va finir aujourd'hui avec un deuxième. Puis on va voir les autres après. C'est Yahweh Jireh. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi? Yahweh.
L'Éternel pourvoira.
Amen. Dret ça. L'Éternel pourvoira. OK. L'Éternel pourvoira. Ça, c'est un des... nom de Dieu qui est le plus doux pour mon âme. Genèse 22, 14, on lit. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ce nom a été attribué à Dieu par le patriarche Abraham, comme on vient de le lire. Mais pourquoi? Pourquoi qu'il l'a appelé comme ça? Dieu voulait éprouver Abraham au début du chapitre 22, puis pour ce faire, il lui a demandé de sacrifier son fils unique, son fils qu'il aime. C'est comme ça qu'il va lui demander. De sacrifier. Hein? Il vient de l'avoir, c'est le porteur des promesses. Et Dieu lui demande, puis regardez bien les termes qu'il dit. Il dit, ton fils unique, celui que tu aimes. C'est important ça. Abraham prit donc Isaac et se dirigea vers le lieu déterminé. En route, Isaac, il demande la question. Papa, je vois, ou père, je ne sais pas comment il l'a appelé, je vois le bois. Je vois le feu, je vois tout ce qu'il faut, je vois la corne. Il est où le sacrifice, papa? Abraham lui répond, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu s'en occupe autrement, Dieu va pourvoir. Alors, en obéissance à l'ordre de Dieu, Abraham plaça son fils sur l'autel en guise de sacrifice. Mais avant qu'Abraham puisse frapper son fils, Dieu l'a retenu et a pourvu un bélier à la place d'Isaac. Où ça, tu vois ça? Ouais. La rédemption ou la délivrance que Dieu accorda ce jour-là sur la montagne motiva Abraham à appeler cet endroit Yahweh Jireh. Mais il faut faire attention à ne pas voir ce précieux nom de Dieu avec une emphase sur la prospérité économique, comme c'est le cas dans plusieurs milieux évangéliques, vont dire l'Éternel Jireh, Dieu va pouvoir en abondance économiquement et avec prospérité. Même si c'est vrai que Dieu est puissant et fidèle pour pouvoir à tous nos besoins, on voit ça ailleurs dans la Bible, Dieu promet ces choses-là, avec Jésus en particulier. Le nom Yahvé ou Yahweh Jireh n'est pas une promesse de prospérité économique et matérielle. Il y a d'autres promesses que Dieu dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Ce nom-là n'est pas là principalement pour ça. En réalité, Dieu est Yahweh Jireh parce que c'est lui qui pourvoit pour la rédemption de notre péché. On est tous condamnés à mort à cause de nos péchés, vous le savez. Mais Yahweh Jireh a pourvu un sacrifice à notre place, qui est quoi? Son fils unique et bien-aimé, le même langage que Dieu va demander à Abraham. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est Dieu s'est pourvu un sacrifice pour racheter son peuple, pour prendre la place de son peuple. Ce n'était pas un bouc, c'était l'agneau de Dieu qui était Christ. Et l'Éternel, Yahweh Jireh, c'est principalement à ça que ça s'est associé. Bien avant de penser au matériel. Prenons d'autres promesses pour ça. Comme a déjà commenté le missionnaire et prédicateur Paul David Washer sur ce nom de Dieu, il dit ça. C'est presque un blasphème de mettre l'accent sur la prospérité économique plutôt que sur la rédemption. Jésus n'a pas versé son sang pour notre gain monétaire, mais pour le salut de nos âmes. Puis quand on fait appel à l'Éternel pourvoira, regardez la note que j'ai prise, que j'ai dit. C'est pour ça que je disais que c'est un des noms les plus précieux pour moi. Lorsque nous nous battons contre un péché que la honte et la culpabilité nous accablent, n'hésitons pas à se mettre sur nos genoux en invoquant Dieu par ce nom. « Oh Yahweh Jireh, mon Dieu qui a pourvu à ma rédemption. » Vous voyez comment que les noms de Dieu commencent à, en tout cas du moins dans ma vie personnelle, ça a une connotation bien particulière quand j'appelle Dieu par un nom. Quand je me présente devant Dieu en l'invoquant, l'Éternel pourvoira ou a pourvu, c'est parce que je veux me rappeler qu'il a pourvu pour mes péchés. Il n'est pas juste Yahweh, le Dieu immuable. Des fois, je vais l'adresser comme ça, éternel. La plupart du temps, c'est Seigneur ou éternel que je l'appelle. Parce que je me suis émerveillé devant sa grandeur. Mais quand j'ai besoin de quoi de plus précis, Dieu m'a pourvu à des noms particuliers pour nous aider. Non, je dis ça plus dans le sens que si Dieu a pris la peine de nous se présenter avec plusieurs noms, je suis sûr que c'est avec une intention derrière. En fait, c'est ça qu'il fait. Quand il se présente dans une certaine situation, l'Éternel, mettons, David va dire l'Éternel, mon berger, qui est un autre nom de Dieu, on va le voir la prochaine fois, Yahweh Rapha, ou Raha. C'est à cause que David, quoi? Il parle, tu me protèges avec ta houlette, ton bâton me rassure, tu m'amènes près des eaux. Tu vois, David avait besoin de chanter, d'exprimer ça, de prier ça, puis le nom qu'il a, c'est le nom, l'Éternel est mon berger. Fait que... C'est une facette de son caractère, c'est ça. Exact. Mm-hmm. Ouais. Amen. C'est ça. Peut-être deux, trois personnes qui pourraient finir en priant, puis on va finir quelques chants.